Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B s'apprête à commencer et au menu aujourd'hui, l'info du jour, la ville de Rennes cherche un candidat pour une ferme florale, interview avec la Ligue contre le cancer pour annoncer un spectacle débat sur le cancer de l'enfant et de l'adolescent, il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage à la découverte de la nouvelle expo de l'espace des sciences et puis deux recommandations pour terminer l'émission. Bienvenue dans la reine. Allez, on commence avec l'info du jour que j'ai retenu pour vous. La ville de Rennes lance un joli projet de ferme florale et cherche des candidats. Alors, il faut d'abord dire un mot sur l'industrie de la fleur coupée, un secteur polluant, puisqu'il recourt fortement aux engrais chimiques, nécessite beaucoup d'eau et d'énergie fossile pour le transport. En effet, 83% des fleurs achetées en France sont en fait importées, notamment d'Afrique de l'Est et d'Amérique du Sud. En plus du transport, les serres chauffées, par exemple aux Pays-Bas, sont également très gourmandes en énergie. La ville de Rennes souhaite donc proposer à l'échelle locale une alternative un peu plus durable en relocalisant la production de fleurs pour qu'elles soient de saison, en circuit court et idéalement en agriculture biologique. D'autres fermes urbaines ont déjà été encouragées dans leur installation, qu'il s'agisse de lieux à finalité commerciale ou de structures à visée plus pédagogique. C'est donc un rôle de facilitatrice que la municipalité endosse avec un appel à candidature pour lancer une ferme florale sur un terrain de 2 hectares. Le champ, il est situé près du centre horticole municipal, c'est sur la route de Vezin-le-Coquet. Et la production de fleurs, eh bien, elle peut être à visée ornementale et ou comestible dans le cadre d'un bail rural à clause environnementale pour le point technique. Là, c'est le moment des candidatures, ouvertes vendredi dernier et jusqu'au 23 février 2024. Et plusieurs profils seront valorisés. Des projets basés sur des modèles collectifs, pourquoi pas des projets portés par des structures de l'insertion. Une attention particulière sera aussi portée au choix de variétés, si possible, du coin. Et le projet sélectionné, eh bien, il sera dévoilé au mois d'avril. Pour plus d'infos, il y a le site métropole.rennes.fr. Voilà, c'était l'info du jour. Tout de suite, on poursuit avec une interview. Chloé Minerot et Jacinthe Bonneau, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Chloé, vous êtes avec nous en studio. Jacinthe, on vous joint à distance. Chloé, vous êtes chargée de mécénat et de l'événementiel pour le comité d'Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer. Jacinthe Bonneau, vous êtes pédiatre et vous faites partie des équipes d'OBAJA, 5 lettres pour Oncologie, Bretagne, Adolescents et Jeunes Adultes. On va expliquer ce que font les équipes de ce dispositif plutôt en fin d'échange. On commence d'abord par représenter la Ligue contre le cancer. Et si on vous reçoit, on le dit tout de suite, c'est parce qu'il y a un spectacle débat qui est proposé mercredi 27 septembre à la Maison des Associations à Rennes. L'association de la Ligue contre le cancer, elle est, je pense, particulièrement médiatisée au moment d'Octobre Rose qui arrive à grands pas. Cette association, elle existe depuis plus d'un siècle et elle est présente partout sur le territoire grâce à une centaine de comités départementaux. Ici, en Ille-et-Vilaine, vous êtes combien dans le comité départemental ?
Alors, on est à peu près 14 salariés avec quelques stagiaires, alternants, aussi services civiques qui nous rejoignent régulièrement pour pouvoir nous accompagner sur nos différentes missions. Et on a surtout une centaine de bénévoles qui nous accompagnent sur tout le département pour pouvoir soutenir tous les événements de mobilisation de l'année, représenter la Ligue, ses missions, etc.
Alors les actions de ce comité, elles sont multiples. Il y a du soutien à la recherche, de la prévention, de l'accompagnement auprès des patients, puis aussi de l'information auprès du grand public. En cette rentrée, il y a du nouveau du côté de l'accompagnement des patients, on s'arrête là-dessus, avec des temps collectifs qui vont être proposés à Saint-Malo et à Redon. Ça existe déjà à Rennes et sur d'autres territoires et vous poursuivez ces actions-là?
Exactement, on a un espace d'accueil pour les personnes malades ainsi que leurs proches à Rennes. Et on développe à partir de cette année, de la rentrée, donc de septembre, de maintenant, deux antennes à Saint-Malo et à Redon, donc qui ont disposé en fait d'activités collectives, que ce soit pour promouvoir l'activité physique adaptée au cancer, puisqu'on sait que ça améliore grandement les chances de guérir par rapport à la maladie, mais aussi pour rompre l'isolement auquel peuvent être confrontées les personnes malades durant leur traitement de manière générale.
notamment à travers des groupes de parole. Et pour ce qui est local à Rennes, il déménage en début d'année prochaine.
Voilà, exactement. On va prendre du coup nos quartiers au niveau du Colombier à partir de la fin d'année, début d'année prochaine. Donc on sera encore plus proche de vous.
J'ai cité le temps de sensibilisation sans doute le mieux identifié par le grand public, à savoir Octobre Rose, mais là on est encore au mois de septembre et il se trouve que c'est le mois dédié à la lutte contre les cancers de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. C'est le moment où je me tourne vers Jacinthe Bonneau. Vous êtes donc pédiatre et assez spécialisée sur ces cancers de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. De quels cancers on parle ? Ils sont différents des cancers qui touchent l'adulte ?
Les cancers de l'enfant sont déjà beaucoup moins nombreux, heureusement, que chez l'adulte. Il s'agit seulement de 1 à 2% des cancers en France qui touchent l'enfant. Ça, c'est la première différence. Et puis aussi, en termes de biologie du cancer, on n'est pas du tout sur les mêmes pathologies. En effet, vous avez chez les enfants, en premier lieu, les leucémies, les tumeurs cérébrales. On a aussi pas mal de lymphomes. Et puis, toutes ces maladies que vous avez peut-être entendues, qui sont vraiment des raretés, mais qui, dans nos services, sont très fréquentes, c'est les blastomes, donc néphroblastomes, neuroblastomes, rétinoblastomes. En fait, c'est des cellules très immatures, embryonnaires, qui se sont mal développées et qui ont provoqué un cancer.
Chaque année en France, près de 2500 enfants, adolescents et jeunes adultes sont touchés par un cancer. Est-ce qu'en Bretagne, on est finalement une région touchée comme les autres par les cancers sur ce public-là ? Et autre question, est-ce qu'il y a peut-être une augmentation du nombre de cas ? On sait que sur certains cancers, il y a des liens avec des facteurs environnementaux qui pourraient amener des évolutions dans un sens ou dans un autre.
Oui, alors, pour répondre à votre première question, on est touché en Bretagne de la même manière qu'ailleurs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 154 cancers pédiatriques, c'est-à-dire moins de 15 ans en Bretagne par an, pour de ces, effectivement, 2500 cas par an en France. Alors, les facteurs environnementaux, on est toujours un peu mesuré en pédiatrie. On n'est pas du tout sur des cancers qui sont liés à des... mode de vie, comme on peut avoir avec le tabagisme ou l'alcoolisme, qui peuvent être très, très pourvoyeurs de cancer chez l'adulte. En pédiatrie, c'est plus compliqué à mettre en évidence. On a effectivement eu plusieurs enquêtes épidémiologiques qui ont été réalisées sur le territoire ou ailleurs en France, avec des expositions qui peuvent être un peu pointées du doigt, mais la preuve vraiment scientifique n'a pas été faite concernant ces facteurs de risque.
Vous l'avez dit, le cancer, il est beaucoup plus rare chez l'enfant que chez l'adulte. Il reste quand même la première cause de décès par maladie chez les moins de 20 ans. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que le taux de guérison, il est important, de 83% aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séquelles ou que les traitements sont sans effet secondaire, il faut le redire.
Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, c'est une de nos actions qui est vraiment primordiale en pédiatrie, c'est que nos patients vont effectivement, pour la plupart, guérir. Et donc, on a envie, nous, en tant que pédiatres, de leur offrir une qualité de vie d'adulte qui soit la meilleure possible. Et on a toujours à cœur d'améliorer nos projets thérapeutiques, non seulement pour améliorer les taux de survie, mais aussi leur offrir vraiment une vie sans séquelles.
On peut donner un exemple de séquelles pour concrètement comprendre quel impact ça peut avoir sur l'enfant une fois devenu grand ?
Alors oui, alors faut pas non plus trop faire peur parce qu'il y a des maladies qui donnent aucune séquelle. Mais effectivement, par exemple, une tumeur cérébrale, faut s'imaginer à l'âge pédiatrique en plein développement, ce sont des enfants qui vont soit avoir une chirurgie importante, soit avoir de la radiothérapie. Et tout ça, ça peut avoir des conséquences sur leur développement. Alors parfois c'est visible, donc avec par exemple une cécité, il va falloir faire des aménagements dans leur vie quotidienne. Mais ça peut être aussi des séquelles invisibles et c'est celles qui sont les plus difficiles à dépister, avec une grande fatigabilité ou des troubles de concentration. Et on a toujours un peu de mal à faire la part des choses entre ce qui va être lié en fait, au contexte de prise en charge ou vraiment aux effets secondaires et notamment à long terme. C'est pour ça que ces patients-là, il est très important de leur offrir. Et c'est vraiment une démarche qui est actuellement nationale d'essayer de faire des consultations de suivi à long terme pour ces patients devenus grands.
Et c'est le moment où j'ajoute que la Ligue contre le cancer justement finance la recherche pour essayer de réduire la toxicité des traitements et prévenir leur impact sur le patient. On arrive à cette pièce de théâtre qui sera jouée mercredi 27 septembre à 18h30. Ça se passe dans l'auditorium de la Maison des Associations où est hébergé Canal B, et le public pourra découvrir la pièce Léo, qui est en fait une proposition, je crois, d'une compagnie qui vient des Hauts-de-France.
Alors tout à fait, en fait, la compagnie La Belle Histoire qui nous accompagne sur le projet est une compagnie extrêmement engagée sur le sujet, puisqu'elle accompagne nombre de nos comités départementaux, en tout cas au niveau de la Ligue contre le cancer, pour justement un peu participer à nos missions en changeant le regard par rapport à la maladie. Donc c'est notamment par rapport au cancer pédiatrique avec cette pièce Léo qui a été écrite par Stéphane Von Der Rosier-Rennes, mais aussi avec d'autres types de pièces pour d'autres types de cancers. Donc on est très heureux qu'ils puissent jouer pour la première fois Léo en Ille-et-Vilaine avec nous. Et l'idée, en tout cas, de les mobiliser, c'était de faire en sorte de sensibiliser le public à la question de la maladie chez les adolescents et surtout à la solidarité nécessaire pour parvenir à surmonter cette épreuve. Donc là, on suit un adolescent qui apprend sa maladie, donc il y a déjà un petit peu ce contexte-là, mais on voit aussi comment son rapport à ses proches peut évoluer quand il l'annonce à sa famille, à ses amis, aux gens qu'il côtoie au quotidien. Et donc l'idée, c'est pas d'être larmoyant, l'idée c'est pas d'être dans le pathos, c'est vraiment d'apporter de la matière à réflexion, sans jugement, pour permettre aux personnes qui pourraient être confrontées à cette thématique, que ce soit au niveau de l'adolescence ou tout au long de la vie, puissent apporter une réponse humaine pour que les personnes puissent se sentir soutenues, en fait, concrètement.
Et c'est un spectacle qu'on peut aller découvrir gratuitement, donc mercredi à 18h30 à la Maison des Associations, ici à Rennes. Et la pièce, elle sera suivie d'une table ronde pour présenter les travaux d'Obaja, O-B-A-J-A, équipe dont vous faites partie, Jacinthe Bonneau. Alors, ces cinq lettres, elles désignent l'équipe d'oncologie Bretagne adolescents et jeunes adultes, puisque vous êtes donc pédiatre, mais si j'ai bien compris, un jour par semaine, vous accompagnez des adolescents et des jeunes adultes qui sont atteints de cancer sur le site de l'hôpital Sud, c'est ça ?
Alors oui, on est basé à l'hôpital, mais on a vraiment la volonté d'être accessible à tous les jeunes atteints de cancer en Bretagne. En fait, on est un dispositif régional qui a suivi en fait une directive ministérielle, puisqu'effectivement, alors ça touche la tranche d'âge 15-25 ans. Après, on peut aider à la prise en charge de plus jeunes ou d'un peu plus âgés à partir du moment où il y a cette vulnérabilité qui est liée à leur âge et à leur développement et à l'éruption de cette maladie dans cette période si délicate. On est en fait des facilitateurs de parcours, on n'a pas de service dédié, puisqu'effectivement, une des principales fragilités, c'est qu'ils sont pris en charge de manière un peu éparpillée entre les services d'adultes et de pédiatrie, et chez les adultes en oncologie, quand il s'agit de tumeurs solides, en hématologie, quand il s'agit de lymphome ou de leucémie. Et en fait, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que ces jeunes, ils sont souvent très isolés, à une période de la vie où ils n'ont pas du tout envie d'être isolés. Et ils ont besoin de se sentir unis. Et donc, on a cette volonté de les faire se rencontrer parfois et aussi d'avoir des facilitations dans leur parcours, que ce soit sur le plan thérapeutique, mais aussi en termes de soins oncologiques de support.
Et il y a combien de personnes dans cette équipe mobile régionale ?
Alors, moi, je suis le médecin coordinateur. Je dirais la cheville ouvrière, c'est Maïna Letor, qui est une puéricultrice de formation, et qui va être en fait ce qu'on appelle une infirmière coordinatrice, qui va prendre un peu tout le jeune dans sa globalité, et en fonction de ses besoins, va pouvoir l'orienter vers les autres personnes d'Obaja. Donc l'équipe d'Obaja est aussi constituée d'une psychologue qui s'appelle Sarah Tanguy-Bélier. Sarah, elle va avoir un rôle, pas forcément pendant les traitements auprès du jeune, mais plutôt pour son entourage, parce que le jeune, pendant les traitements, il a souvent des psychologues dans les services, mais puis aussi dans la période très très délicate de l'après-cancer, on en parlait tout à l'heure, où il peut y avoir un vrai contre-coup psychologique. Et puis on a également une conseillère d'orientation, puisque c'est une période de la vie où on choisit un métier, où on va faire une formation, et parfois la maladie, elle interrompt ce projet, qui peut être parfois primordial. Et donc il faut réinterroger, est-ce que ça va être faisable ou pas? Et si ça n'est pas faisable, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça, c'est Anise Marquilly. Et puis depuis à peine un mois, et grâce à la Ligue, qui nous soutient quand même depuis le début.
Avec plaisir.
Les financements à ARS ne permettent pas d'avoir cette équipe en entier, et donc c'est la Ligue qui nous a beaucoup aidés. Et entre autres, on a accueilli Fanny Drouaden, qui est une enseignante en activité physique adaptée, mais pour l'après-cancer ou pour le jeune qui est chez lui et qui ne peut pas se déplacer, ça reste quand même une personne ressource, et donc elle fait par exemple des visios avec les jeunes atteints de cancer pour faire un peu d'activité physique adaptée. Et pour finir, on attend là le recrutement d'une assistante sociale, puisqu'encore une fois, une grande fragilité, c'est ces jeunes qui sont en fait en train de découvrir la vie active et n'ont pas forcément les ressources, et du coup vont se retrouver en grande précarité du fait de la maladie.
Donc toute une équipe qui, à travers donc ce dispositif Oncologie Bretagne Adolescents et Jeunes Adultes, accompagne ce public si particulier, donc des adolescents et des jeunes adultes qui traversent cette épreuve du cancer. Ça représente combien de jeunes qui sont accompagnés ?
Alors en théorie, on a aussi un rôle de recensement, parce que c'est pas facile de savoir où ils sont, parce qu'ils sont un petit peu partout, dans les cliniques, dans les hôpitaux. Mais normalement, on est censé en connaître 300. Aujourd'hui, on est à peu près à 150 de nouveaux patients par an. Donc, on a encore la moitié qu'on ne sait pas vraiment où ils sont. Mais on a quand même 300 jeunes dans notre fil actif, puisqu'il y a tous les jeunes de l'après-cancer.
Le public pourra en apprendre plus mercredi 27 septembre, donc lors du spectacle. Débats qui sont proposés ici à la Maison des Associations à Rennes. C'est le moment où je vous représente. Chloé Minroux, vous êtes chargée de mécénat et de l'événementiel pour le comité d'Ille-et-Vilaine de la Ligue contre le cancer. Et Jacinthe Bonneau, vous êtes pédiatre et vous faites partie des équipes d'Obaja, Obaja pour Oncologie Bretagne Adolescents et Jeunes Adultes. Léo, c'est le titre du spectacle qui est organisé mercredi. Ça se passe donc à partir de 18h30. Pour plus d'informations, il y a le site internet liguecancer35.fr, et on le redit, c'est un temps qui est proposé gratuitement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Loterie solaire sur Canal B, un morceau de la bibliothèque de la Bergerie. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur, et qui est à retrouver sur un album attendu pour le 6 octobre chez Freaksville. Et alors, cette bibliothèque de la Bergerie, c'est un projet du producteur Emmanuel Mario, installé depuis des années avec des compagnons de route musicale dans une ancienne bergerie isolée du sud de la France, d'où le nom du groupe. Vous êtes en train d'écouter La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Après l'interview, c'est l'heure du reportage du jour. Et je vous emmène découvrir la nouvelle exposition temporaire de l'espace des sciences à voir du 26 septembre au 10 mars 2024. Intelligence différente par nature, c'est le sujet exploré. Intelligence au pluriel, car cette notion concerne non seulement l'être humain, mais aussi tous les autres organismes vivants et aujourd'hui les nouvelles technologies. L'exposition, accessible à partir de 8 ans, prend la forme d'un parcours ponctué de 30 expériences et dans le prolongement, deux conférences sont proposées ce mardi 26 septembre sur l'intelligence artificielle avec le directeur général du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et puis seconde une conférence mardi 5 décembre, là sur le thème du médecin et de l'ordinateur, en compagnie cette fois d'un membre de l'Académie nationale de médecine. Pour l'exposition, j'y reviens, les tarifs ils vont de la gratuité à 7 euros. Pour plus d'infos, il y a le site espace-science.org et un reportage pour vous donner un aperçu.
Quand une plante est attaquée, elle émet des molécules qui, dispersées dans l'air, prennent rapidement toutes les parties de la plante qui se mettent alors en mode défense. Les courants électriques sont également mesurés sur quelques centimètres à l'intérieur de la tige. Même sans langage, les plantes mobilisent ici un système codé de transmission de l'information dans tout leur corps.
Bon, écoutez, c'est la rentrée, hein, à l'espace des sciences. Vous avez vu le premier groupe qui rentre au planétarium.
Michel Cabaret, directeur de l'espace des sciences.
Et puis ce soir, on a une conférence avec le président directeur général du CNRS, qui est un informaticien, Antoine Petit, sur intelligence artificielle, opportunités et ou risques. En attendant, quand même, vous dire qu'on a eu un très bel été à l'espace des sciences. On a été complet presque tout le temps. L'espace des sciences aussi, on a rénové notre site internet, il y a une nouvelle animation au laboratoire de Merlin sur le vol. Le planétarium, il a été upgradé, ça veut dire qu'on a changé nos vidéoprojecteurs, nos calculateurs, le logiciel a été mis au point. Et donc on va avoir un ciel de meilleure qualité qui se rapproche plus de ce qu'on peut observer le soir. Et puis les conférences ont redémarré mardi dernier avec Jacqueline Bloch. Donc on est en ordre de marche pour la rentrée avec l'accueil des enfants, des familles, du grand public. Alors intelligence différente par nature, c'est une coproduction à trois mains, même un petit peu plus, mais qu'on a menée avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, le Musée du Fjord dans le Saguenay au Québec, et puis aussi le musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, qui est au Québec aussi, qui est près de la frontière américaine. Et avec l'aide de nombreux chercheurs du CNRS, des universités d'ici à Rennes, à Nantes, au Québec, on a réalisé cette exposition dans le cadre d'un accord France-Canada et dans le cadre aussi d'une belle relation qu'on a avec ces musées depuis fort longtemps. Et on a travaillé dès le départ avec Jacques Roux, qui a été finalement le commissaire délégué pour faire cette exposition. Et Jacques, c'est un fidèle aussi de nos réalisations, de notre travail en commun avec toute l'équipe d'animation, de médiation et des expos de l'espace des sciences. Nous, on est parti quand même de Frans Wall, là, le primatologue des pays nordiques, là, éthologue, sur la notion d'empathie. On est parti, c'est quoi les intelligences? Par rapport aussi à la théorie de l'évolution. C'est-à-dire un petit peu s'adapter à toutes les situations qui se présentent à nous. Et puis aussi, on a voulu déconstruire le mythe un petit peu qu'il n'y a que l'être humain enfin, qui est intelligent, quoi. Et finalement, les gens vont venir nous voir en disant « je veux mesurer mon QI, mon quotient, pour savoir si je suis intelligent, mais bon, ça ne marche pas, c'est pas tout à fait ça, quoi. » Et donc, je pense que c'est un regard croisé des sciences, que ce soit de la biologie, de l'éthologie, de l'évolution, du comportement, sur le sujet, quoi. Et donc, on est passé comme ça progressivement du monde végétal, même en dehors du végétal, au monde végétal, au monde animal, et puis à l'homme, et puis même aux intelligences artificielles à la fin de l'exposition.
cette abeille n'est butineuse que depuis quelques jours. Avant ça, elle a eu de nombreux métiers. Elle a nettoyé des alvéoles, s'est occupée des larves, elle a été sentinelle ou encore testeuse de pollen. Elle est née il y a un mois, mais elle a déjà un beau CV. Elle s'élance, suivons-la. Elle fait une pointe à 32 km/h. On ne peut plus la suivre à cette vitesse. Zut, on ne la voit plus du tout. Ah là, la voilà. Elle a l'air d'avoir trouvé beaucoup de nectar dans cette fleur. À votre avis, sur quelle fleur va-t-elle se poser ensuite? Elle se pose sur une autre fleur de la même espèce. Quand une abeille trouve beaucoup de pollen dans une fleur, elle mémorise à quoi elle ressemble et elle se met à la recherche d'une fleur semblable. C'est ce qu'on appelle la constance florale.
Alors intelligence, c'est un mot un peu piégeux, comme diraient les Québécois. Surtout quand on le prend au singulier.
Ça, c'est Jacques Roux, commissaire de l'exposition.
Moi, j'étais très proche de Bruno Latour, je ne sais pas si vous connaissez, un anthropologue des sciences, qui disait que c'était des objets chevelus. C'est-à-dire qu'on tire à des fils, et puis il y en a encore, et puis on ne sait pas trop... on a une pelote, là, et on ne sait pas trop comment s'y prendre avec ces objets compliqués, comme il disait aussi. Alors, plutôt que d'arraisonner ce phénomène de l'intelligence dans un mot, dans un seul concept, il fallait plutôt le faire diffuser. Et moi, j'en venais à l'idée de bouquet. Il se trouve que un tel ligueré, dans la racine étymologique du mot, il y a aussi la cueillette. Il y a aussi trouver les bonnes choses et les associer. Alors, une des idées fortes qui était avancée, notamment par les Québécoises, oui, voilà, c'était éviter de faire quelque chose d'élitiste. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est très marqué aussi par le passage à l'école, ce qu'ils ne sont pas. Donc, il y a eu l'idée tout de suite de dire, non, l'intelligence, on peut le prendre de manière beaucoup plus inclusive. Et on a enrôlé comme ça de plus en plus de sujets, de plus en plus de porteurs d'intelligence, jusqu'au point de cette citation de Rose qui a 10 ans, qui dit « Tout le monde est intelligent ». C'est aussi un propos qu'on retrouve dans l'exposition avec Emmanuelle Puy-Debas, qui est une chercheuse éthologue de très haut niveau du Muséum de Paris, et qui dit exactement la même chose. Elle dit notamment que quand elle observe des singes dans un groupe, il y a des différences de comportement beaucoup plus importantes, ces écarts-là, que quand on compare ce qui se passe dans un groupe avec ce qui se passe dans un autre groupe. Donc ça interroge beaucoup cette idée de classifier, de faire des catégories avec ces notions d'intelligence. Ça invite beaucoup plus à différencier, à particulariser, à individualiser. Bon, faire un bouquet, c'est bien, mais on risque quand même, si on explose trop la thématique, de perdre le visiteur. On va faire des domaines. Et ça a donné ces quatre domaines qu'on explore et que vous retrouvez ici dans la scénographie. Le domaine cellulaire et végétal. On a en fait des comportements adaptés. C'est-à-dire qu'ils ont une manière de traduire l'information qu'ils tirent de l'environnement, des contraintes, trouver de la nourriture, se défendre contre des agressions, etc. Ils sont tout à fait équipés pour prendre la mesure de ces risques et trouver l'attitude, la réaction qui va être adaptée pour se protéger d'un prédateur, par exemple. Et ça, c'est des formes très basiques et très partagées dans toutes les formes du vivant. Et on verra au bout du compte que cette idée d'apprendre à se protéger, d'apprendre à se nourrir, d'apprendre à se développer, il y a le mot « apprendre ». Et en fait, ce qui relie toutes ces intelligences, je pense que c'est cette notion d'apprentissage. Et aussi apprendre à innover. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la mécanique de la reproduction. Le vivant, c'est souple, c'est agile. C'est-à-dire que les conditions n'arrêtent pas de changer. Alors je disais, l'intelligence humaine, elle a été mise à mal quelque part, le concept, par des controverses à l'intérieur même de ces domaines scientifiques, notamment en psychologie, parce que il y a des idées qui se sont développées sur l'unicité d'une forme d'intelligence. Et vous avez par exemple un chercheur américain qui s'appelle Howard Gardner, qui a développé l'idée des intelligences multiples, mais il n'était pas le seul. Et c'est-à-dire que, en fait, quand on prend un individu, il peut être très fort dans une discipline, il peut être très bon en sport, par exemple, et puis un peu moins bon en histoire et très bon en dessin d'art, etc. Donc, en fait, on a des talents qui sont à la fois innés et acquis. Donc, c'est un mixte qui nous fait, nous, notre personnalité, et qui fait qu'on n'est pas réductible à un seul critère. Alors, c'est intéressant, le QI, parce que ça a été développé à la fin du 19e en France, avec Alfred Binet notamment, et dans un but très, très altruiste, c'est-à-dire que c'était pour aider, effectivement, les professeurs qui avaient affaire à des enfants en difficulté, et c'est pour leur donner des outils pour diagnostiquer, pour accompagner ces enfants qui avaient des difficultés. Et en fait, la notion de QI, elle a été reprise et c'est devenu un critère de mesure. Personnellement, je suis très réservé sur cette notion de mesure de l'intelligence, parce que qui dit mesure dit qu'on a essentialisé quelque part la chose qu'on mesure. Attention avec ce mot de ne pas tout ramener à notre propre système de valeurs. On est quand même dans des sociétés qui mettent très très haut la question de la réussite. Dans d'autres cultures, dans d'autres modes de vie collectifs, on va mettre en avant plutôt la communauté. Va être considéré comme intelligent celui qui fait des contributions à la communauté. Je vais très très vite parce que je parle aussi de l'intelligence artificielle. C'est très curieux que les promoteurs dans les années 50 ont utilisé ce mot « intelligence ». Et en fait, derrière les algorithmes, derrière maintenant ChatGPT, etc., il y a cette idée d'apprentissage. Alors, des formes d'apprentissage de plus en plus perfectionnées, des auto-apprentissages. Il se trouve qu'avec ChatGPT, vous avez des très gros débats qui sont sur la question de la capacité à attribuer un texte, par exemple, à un humain ou à une machine. Il y a même des gens qui travaillent pour trouver les algorithmes qui vont permettre de différencier les deux. Mais à mon avis, c'est un peu la course poursuite et c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que au jour d'aujourd'hui, les IA font des progrès tels qu'on est en train de passer de l'autre côté du test de Turing. On va plus avoir les moyens de distinguer. C'est les années 50, Turing. Alors, en fait, il s'appuyait sur un jeu de société. On écrivait des textes, et puis, de manière très, très rudimentaire, des machines écrivaient. Et après, il y avait un espèce de quiz, laquelle version était écrite par une machine ou par un humain. Là, on est en train de vivre une forme de révolution sous nos yeux, qui fait que des artefacts, des algorithmes, donc c'est plus des humains au sens strict, c'est des machines qui ont été programmées par des humains, mais qui ont pris leur autonomie, sont capables de générer des formes dont on ne peut plus savoir si elles sont vraiment humaines ou pas. Et ça interroge effectivement notre humanité. Je pense que cette exposition, elle est à la fois très ambitieuse, mais elle est aussi très anticipatrice, et ça correspond bien à l'esprit que moi je trouve ici, que je partage complètement. Le rôle des centres de sciences, c'est pas simplement de dire la science d'hier, le sens même d'aujourd'hui, mais d'aider aussi le citoyen, d'aider la société à se préparer à ce qui est en train de venir.
Par contre, c'est évident que selon l'utilisation qu'on va en faire, il pourrait y avoir des débordements. Donc, il faut s'assurer qu'on va bien encadrer cette utilisation-là et le développement en intelligence artificielle.
Donc, comme d'habitude, du coup, dans chacune de nos expositions, il y a une présence humaine, c'est-à-dire qu'il y a un animateur ou une animatrice dans la salle d'exposition pour répondre aux questions, pour essayer d'intéresser un petit peu les publics.
William Lejeuny est chargé de médiation à l'Espace des Sciences.
Et le lieu dans lequel nous sommes, l'atelier d'animation, ce sera aussi l'occasion de rencontrer et débattre avec le grand public comme le public scolaire. Donc, on propose des créneaux de groupes scolaires d'une heure et quart. Et pendant cette heure et quart-là, du coup, il y a la moitié du temps d'animation ici. Donc, on commence par discuter un petit peu de la thématique. Et donc, la deuxième moitié du créneau se passe dans la salle d'exposition où il y a aussi un animateur ou une animatrice qui est présente avec le groupe. En ce qui concerne le grand public, on a deux formats d'animation. En semaine, ce sont des animations d'une demi-heure. Et les vacances et week-ends, ce sont des formats flash un petit peu, donc d'un quart d'heure. Nous, pour essayer de justement faire démarrer la discussion, on a demandé à Midjourney, donc c'est une intelligence artificielle qui est capable de traduire d'un texte en faisant une image, et on a juste mis deux mots dedans, chat et intelligence. Donc là, l'idée, c'est de décrire un petit peu justement ces images très très stéréotypées, puisque en fait, on aurait pu voir un chat chassé d'une manière un petit peu particulière, de prendre des positions particulières, de faire des choses, mais là, du coup, on est vraiment un chat avec une chemise, avec un livre, avec des objets technologiques, avec des lunettes, voilà. Donc tout ce qui est stéréotypé chez nous, en fait, il l'a collé au chat. Donc comme quoi, ce qui puise sur Internet quand on cherche le mot intelligence, en fait, ça, c'est des choses qui reviennent très souvent.
All night, baby. I just can't get enough. I'm way too needy.
sur Canal B, interprété par Gush. Ce titre, il est à retrouver sur l'album Everybody's God, qui est sorti en 2010, le premier des deux disques de ce groupe français qui a aussi sorti plusieurs EP. L'AREN, l'émission d'information locale de Canal B, bien vous êtes en train de l'écouter a priori sur le 94.0, peut-être via la radio numérique terrestre, le DAB+, mais vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur le site canalb.fr, un site où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts des émissions salariés et bénévoles. Et chaque jour, on termine avec une recommandation, souvent des conseils d'événements à vivre, de choses parfois à écouter, lire ou voir. J'essaye en tout cas de viser large en sélectionnant des rendez-vous qui peuvent vous être utiles. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui la 6e semaine de la création et de la reprise d'entreprises. C'est organisé par Pôle emploi et de nombreux partenaires. En 2022, plus de 39 000 entreprises ont été créées en Bretagne, un record a priori, particulièrement marqué dans le secteur des services administratifs. Et c'est près d'une entreprise sur six qui est réalisée par un demandeur d'emploi, d'où l'idée de proposer un temps fort cette semaine autour de cette question. Plus de 30 rendez-vous sont organisés en Bretagne. À Rennes, il y a un atelier pour pitcher son projet. Ça se passe jeudi 28 septembre chez Pôle emploi dans le secteur Rennes-Ouest. Et c'est mené par BGE, le réseau associatif Ensemble pour agir et entreprendre. Le lendemain, le vendredi 29 septembre, autre rendez-vous cette fois dans les locaux de Pôle emploi Rennes Sud pour des ateliers numériques proposés par Google. Bon, Google, entreprise tentaculaire, bien critiquable par des aspects, mais qui reste difficilement contournable quand on crée son entreprise, notamment pour communiquer. Pour plus d'informations sur cette semaine de la création et de la reprise d'entreprise, rendez-vous sur le site pole-emploi.fr. Et pour une recommandation un peu plus underground, je prends un peu d'avance pour relayer l'événement Veille à ton droit. Cette fois, c'est organisé par le planning familial d'Ille-et-Vilaine. Ça se passe samedi 30 septembre de 13h30 jusqu'à tard le soir dans le bâtiment à modeler, le BAM, installé dans l'ancienne antipode dans le quartier Clenay. De 13h30 à 18h, il y aura pêle-mêle des ateliers, projections, du théâtre ou encore une exposition sur le sujet de l'avortement comme une lutte passée mais à conjuguer aussi au présent. Et à partir de 18h30, place à des concerts. Le prix est libre, ça sert en fait à soutenir la caisse IVG délai dépassé. Car même si le délai pour avorter est passé à 14 semaines en 2022, l'accès à l'avortement reste toujours contraint par des inégalités territoriales, économiques, sociales, mais aussi par le manque de soignants et le refus de certains de pratiquer des IVG. Une caisse de solidarité existe donc pour aider celles qui sont hors délai pour avorter en France et le faire à l'étranger. Pour info, ça coûte entre 1 000 et 2 500 euros et 4 personnes ont pu être aidées par le planning familial 35 depuis le début de l'année. Cette caisse de solidarité, elle est aussi à retrouver en ligne sur la plateforme de financement participatif helloasso.com. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de l'AREN, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.